Vous écoutez On lit pour vous.
Prisonnier des zones inondables. Un dossier de Charles Lecavalier paru le 3 avril 2024 dans la presse. Le combat de Suzanne Leblanc. À la visitation de l'île du Pas, en perte d'autonomie, Suzanne Leblanc est contrainte d'utiliser une toilette sèche et se lave à la débarbouillette car elle ne peut adapter sa maison en raison des règles de zone inondable. Malgré le soutien de sa municipalité, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, ne permet aucune exception. « Je suis super bien ici. Je suis à côté de l'eau tous les matins. Je déjeune en regardant l'eau. Des fois, il y a des poissons qui sautent. Il y a des oiseaux », dit Mme Leblanc en jetant un regard vers sa fenêtre qui s'ouvre sur un bras du fleuve Saint-Laurent. Dans son domicile logé au bout de l'île du Pas, située dans l'archipel du lac Saint-Pierre, elle a tout ce qu'elle souhaite, un logis abordable, le droit d'avoir des animaux de compagnie, la tranquillité. Sauf qu'elle n'a pas de toilette au rez-de-chaussée. C'est un problème majeur, car depuis quelques années, elle ne peut plus gravir les escaliers en raison de son état de santé. Elle croyait que son problème serait résolu lorsqu'elle a obtenu une subvention lui permettant de construire une salle de bain dans une annexe érigée au rez-de-chaussée de son logis, sur la recommandation de la Société de l'habitation du Québec. Mais sa joie a été de courte durée. Elle s'est heurtée aux règles strictes édictées par le ministère de l'Environnement en 2022 pour les propriétaires de maisons situées en zone inondable. Au début, ma fille voulait venir s'installer ici. On aurait fait un agrandissement et elle aurait pu s'occuper de moi. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent même pas que j'ajoute une salle de bain. « Regarde ce que j'ai comme toilette », lance Mme Leblanc en montrant du doigt une toilette sèche installée entre sa cuisine et sa salle à manger. Blocage. Le maire de la visitation de l'île du Pas, Alain Goyette, a pris fait et cause pour sa concitoyenne. Son sort et celui des autres résidents, prisonniers des zones inondables, l'émeut, d'autant plus que le ministère de l'Environnement se fie à des cotes de crues caduques, selon un rapport de la firme de génie WSP, commandé par la MRC d'Autrey en 2017. Malgré tout le mal qu'il pense de la réglementation en vigueur, son administration n'a pas le droit de délivrer un permis de construction. Le plancher de la salle de bain aurait été en bas de la cote de crue de 100 ans, ce qui est interdit. Mais si on met une marche, ça ne fonctionne plus pour Mme Leblanc, et de toute façon, il est interdit de planter des pieux. Laisse-t-il tomber? Dans le combat qu'elle mène, elle a pourtant le soutien de la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIS de Lanaudière, qui a rédigé une lettre d'appui. Nous espérons vous faire prendre conscience des nombreuses difficultés vécues par Mme Leblanc et sensibiliser les décideurs aux possibilités qui existent pour elle. Mme Leblanc pourrait dorénavant avoir un environnement adapté à ses besoins si la réglementation, qui ne tient pas compte de ses besoins de base et de la particularité de sa situation, pouvait être modifiée, peut-on lire dans la lettre rédigée par le CIS le 20 octobre 2023. Le maire Alain Goyette en a pris bonne note. Il a décroché le téléphone pour plaider la cause de Mme Leblanc auprès du ministère de l'Environnement. Le gars du ministère de l'Environnement m'a dit « Il va falloir qu'elle parte, il n'y a pas d'exception humanitaire. » C'est dur. Et à force de le pousser à bout, il m'a dit « Appelez un journaliste », nous dit Alain Goyette. Au ministère de l'Environnement, on confirme qu'aucune exception n'est possible. Le régime transitoire ne prévoit pas de mécanisme permettant de faire des exceptions pour des cas particuliers. Il impose des règles uniformes pour l'ensemble du territoire du Québec, indique José Guimond, relationniste de presse. Pour Mme Leblanc, quitter sa résidence ne fait pas partie des plans. « Les autres places, c'est trop cher, je ne suis pas capable de partir », lance-t-elle. « La population est vieillissante ici. Je ne suis pas la seule qui va être de même. On ne veut pas aller dans les maisons pour vieux tout le temps », ajoute-t-elle. Vous écoutez « Prisonnier des zones inondables », un dossier de Charles Lecavalier paru le 3 avril 2024 dans la presse. La colère gronde. parmi les maires du bassin du lac Saint-Pierre, la colère gronde. Les règles de 2022 ne passent pas et certains élus craignent que le nouveau régime qui doit être déposé par le ministre Benoît Charrette soit pire. M. Goyette a convié ses collègues à une réunion au début du mois de mars 2024. Dans un premier temps, les maires mettent en doute la validité des cartes utilisées par le ministère de l'Environnement. Un rapport commandé par la MRC et rédigé par l'hydrologue Pierre Dupuis conclut que les cotes retenues par le gouvernement du Québec pour produire les cartes de zones inondables en 2013 sont trop hautes et inexactes et qu'elles doivent donc être considérées comme caduques. Monsieur Dupuis, maintenant à la communauté métropolitaine de Montréal, estime que le gouvernement du Québec surestime les cotes de crue d'environ un demi-mètre, ce qui a une incidence importante sur les cartes de zones inondables dans un territoire aussi plat. Malgré tout, dénonce M. Goyette, le gouvernement n'a pas bougé. Le ministère rétorque qu'une mise à jour de cette cartographie devra être effectuée en tenant compte des exigences méthodologiques minimales du MEL-CCFP. Le maire de Saint-Barthélemy, Robert Sylvestre, et le maire de Lanoraie, l'ancien député péquiste André Villeneuve, appuient le maire Goyette. Les règles mises en place par l'État risquent de faire tout perdre aux propriétaires de maisons situées en zone inondable, dénonce-t-il. La maison, c'est le patrimoine, selon le maire Robert Sylvestre. Lorsqu'ils vont tenter de vendre leur maison, ce sera à quel prix si l'acheteur qui s'en vient ne peut pas avoir un prêt hypothécaire? Les valeurs vont s'effondrer probablement, et ils ne peuvent pas modifier leur maison, même pas faire agrandir des fenêtres. Une maison, c'est le fruit de toute une vie de travail, et du jour au lendemain, tout ça est mis en péril. C'est fou raide, ajoute M. Villeneuve. Mais qu'en disent les députés locaux? C'est le détachement des élus qui m'a surpris. Ce qu'ils nous disent, c'est tout simplement qu'ils ne veulent plus de monde dans les zones inondables. Ils ne veulent plus payer. On ne veut plus payer pour ça. C'est ce qui revient tout le temps, souligne Alain Goyette. Les maires exigent maintenant que le gouvernement du Québec montre les nouvelles cartes de zones inondables avant d'adopter un règlement, plutôt que l'inverse, pour que les citoyens concernés puissent réagir. Ils veulent des règles adoucies pour les propriétaires de maisons immunisées et surtout, ils demandent un mécanisme d'appel lorsqu'un citoyen, comme Suzanne Leblanc, est lésé. Lorsque les inconvénients sur la vie de quelqu'un sont plus graves que le préjudice causé, ça prend des exceptions, laisse tomber M. Goyette. Des milliers de propriétaires pris en otage. Québec planche sur une nouvelle cartographie des zones inondables qui risque d'éclaboussir des milliers de propriétaires, désormais pris en otage de leur résidence en raison d'un carcan réglementaire et d'une perte de valeur foncière, craint un expert. À l'échelle du Québec, on parle de milliers de propriétaires. C'est majeur, estime Michel Leclerc, professeur associé honoraire à l'INRS et hydrologue cadre des MRC Vaudreuil-Soulanges, Deux-Montagnes et Argenteuil. L'ingénieur, également président du conseil d'administration de l'organisme de zone des bassins versants Charlevoix-Montmorency, connaît bien le Québec, qu'il a étudié au cours de sa carrière de plus de 50 ans. Le scientifique n'est pas opposé à l'exercice mis en branle après les inondations historiques de 2017 et de 2019. Il faut se mettre les yeux en face des trous, mais il croit que le gouvernement doit absolument mettre en place des mesures pour compenser les effets potentiellement délétères de la nouvelle cartographie. Dans un document qu'il a rédigé pour le compte de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il souligne que de vastes portions du territoire auparavant considérées comme non ou peu inondables verront ce statut révisé à la hausse. Il craint des conséquences pour les riverains, que ce soit en raison des mesures qui se trouveront dans le nouveau règlement sur les zones inondables ou de phénomènes externes comme une perte de valeur foncière ou une restriction de l'accès au crédit hypothécaire et de l'assurabilité. Des zones sans 350 ans. Actuellement, la cartographie des zones inondables présente des cotes de récurrence de 0,20 ans et de 20-100 ans. Le nouveau règlement ajoutera une troisième zone, celle de 100-350 ans, selon un document obtenu par la presse. Il y aura également un relèvement généralisé des cotes de crues pour prendre en compte la fréquence des crues des dernières années et les impacts des changements climatiques, notamment les risques de défaillance des efforts de retenue d'eau par Hydro-Québec dans le Nord. Des discussions sont toujours en cours pour connaître l'ampleur de cette hausse. Le ministère de l'Environnement va également ajouter un nouveau facteur de gravité de l'inondation en hauteur d'eau en centimètres. En jumelant les deux, il pourra accoler à une résidence un indice de risque de faible à très élevé. On ne connaît pas encore les contraintes réglementaires associées à ces degrés de risque. Vous écoutez « Prisonnier des zones inondables », un dossier de Charles Lecavalier paru le 3 avril 2024 dans la presse. Risque élevé. M. Leclerc s'inquiète pour les propriétaires de résidences à risque élevé qui s'y sont installés en toute légalité, peut-être même sans le savoir, et qui n'ont pas à être ostracisés. Pour éviter cette situation, M. Leclerc propose que l'État québécois puisse offrir un certificat de résilience aux propriétaires des maisons immunisées contre les crues. Ce serait le cas, par exemple, de maisons sur pilotis ou qui ont un vide sanitaire qui permet l'écoulement de l'eau. Et pour les autres, de l'aide sous forme d'un programme de mesures d'adaptation lorsque la situation le permet, ou carrément de rachat des maisons lorsque l'on doit prendre la décision de fermer une rue en raison d'un risque extrême. Erkan Yander est professeur associé en finance à l'Université Concordia et spécialiste de l'impact des changements climatiques sur le marché immobilier. Il croit lui aussi que l'État devra aider les propriétaires de maisons situées en zone inondable. Sinon, ils porteront seuls le poids des changements climatiques, affirme-t-il. Le seul fait d'être situé en zone inondable ralentira les ardeurs des acheteurs et réduira la valeur de la maison, croit-il. Dans ce cas, la perception du risque devient aussi importante que le risque lui-même. C'est un problème difficile. On ne peut pas forcer les prêteurs à prêter de l'argent et on ne peut pas les blâmer de prendre cette décision, dit Erkan Yonder. Le ministère plaide que ces changements sont essentiels pour réduire les impacts futurs liés aux inondations et qu'il prévoit soutenir les municipalités et déployer des outils de communication destinés au grand public pour expliquer les impacts que ce projet de règlement pourrait avoir pour les personnes touchées directement. En février, le ministre Benoît Charrette reconnaissait que sa réforme provoquerait des changements majeurs qui ont des impacts dans la vie de bien des citoyens et citoyennes. Il y a des gens dont le niveau de risque va augmenter par rapport à la situation qui est connue aujourd'hui. Mais c'est une conséquence des changements climatiques, avait-il dit. Une prise de conscience. Actuellement, le gouvernement du Québec n'a budgété que 75 millions de dollars pour aider le milieu municipal à réaliser des projets de relocalisation et d'immunisation de bâtiments situés dans les zones à risque élevé d'inondation. Ce montant est largement insuffisant, plaide Nicolas Milot, directeur de la transition écologique et de l'innovation de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM. Ça ne permet de travailler que sur une seule ville. Ce n'est pas un budget suffisant pour tenir compte de tous les bâtiments à risque très élevé. Je sais que ce n'est pas l'objet du règlement, mais la question va rester entière. Que fait-on avec ces propriétés? Laisse-t-il tomber? Le signal de Desjardins ce printemps, poursuit-il, c'est un gros wake-up call. C'est quand même le fondement même de notre façon de gérer nos propriétés. Le rôle du prêteur hypothécaire est central. Pour les gens qui sont dans les zones les plus à risque, le projet de règlement n'est pas en train de les sortir de la zone inondable. Ultimement, ce sont d'autres forces qui vont venir gérer les zones les plus à risque, dont les prêteurs hypothécaires, dit M. Milot. Sur le territoire de la CMM, le règlement du ministre Charrette ne provoquera pas de tsunami, croit-il, puisque les zones les plus à risque sont bien connues depuis les inondations de 2017. Mais il croit qu'il y aura une prise de conscience très réelle de la part des citoyens. Par exemple, des propriétaires qui se croyaient à l'abri derrière une digue seront identifiés comme étant en zone inondable, mais protégés. Ça va être un changement de paradigme. On va arrêter de considérer que derrière la digue, il n'y a pas de risque. Il y en a un risque. C'est la rupture de l'ouvrage, dit-il. Combien de résidences en zone inondable? Ni le ministère de la Sécurité publique, ni le ministère de l'Environnement ne savent combien de résidences sont menacées par les inondations au Québec. L'aménagement du territoire, dont le zonage et l'application de la réglementation en vigueur par le fait même relèvent des municipalités, affirme Thomas Ricard, relationniste au ministère de la Sécurité publique. Certaines MRC le savent, d'autres non. La MRC du Haut-Richelieu compte 823 bâtiments en zone inondable de 0-20 ans, contre 435 en Nouvelle-Beauce et 539 à Nicolette-Yamaska, par exemple. Dans la MRC des Pays d'en haut, elles ne sont cartographiées que dans une partie du territoire. Mais beaucoup ne le savent tout simplement pas. Le directeur du service de l'aménagement du territoire de la MRC de l'Érable l'explique. Nous n'avons pas cartographié l'emplacement des bâtiments sur le territoire. Nous avons uniquement les limites des propriétés ainsi que les limites des zones inondables. À la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, ce chiffre n'est pas connu. Dans l'ouest de l'île, par exemple, on n'a pas de carte, seulement des cotes de crue, explique Nicolas Minot de la CMM. Le maire de l'arrondissement de l'île bizarre Sainte-Geneviève, Doug Hurley, a toutefois estimé, lors d'une entrevue à Radio-Canada, que 500 résidences étaient en zone inondable dans son secteur. Le ministère de l'Environnement indique qu'en ce qui a trait à la cartographie des zones inondables, dans certains cas, cette dernière n'a pas été revue depuis plus de 30 ans et que la cartographie de nouvelle génération se base sur les dernières connaissances scientifiques pour délimiter les zones inondables d'une façon représentative de la réalité actuelle. C'était « Prisonnier des zones inondables », un dossier de Charles Lecavalier paru le 3 avril 2024 dans la presse.
Quand le cannabis finance les fruits et l'allaitement, un texte de Francis Vaille, paru le 26 avril 2024 dans la presse. Vous le saviez, vous, que les profits du cannabis finançaient le mouvement Allaitement du Québec? Ou encore l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes? Ou même Équiterre? Moi, j'avais compris que l'argent du pot vendu par l'État devait servir à appuyer la recherche et les traitements de la dépendance au cannabis et à diverses substances, comme l'indique d'ailleurs la loi. Cette loi, encadrant le cannabis, est celle qui a donné naissance à la Société québécoise du cannabis, SQDC, en 2018. Mais ce n'est pas ce qui ressort de la reddition de comptes récemment déposée à l'Assemblée nationale par le ministre Lionel Carman, responsable du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, FPRMC. En épluchant le document, on constate même que près de 60 % des 115 millions décaissés par le Fonds en 2023 ont servi à autre chose que la recherche sur le cannabis ou le traitement des dépendances aux diverses drogues, y compris l'alcool et le tabac. En plus du mouvement Allaitement du Québec, l'argent du cannabis est versé à des organismes comme Vivre en ville, l'Association québécoise de la garde scolaire, les ateliers 5 épices ou le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes. Je sais, vous me direz que ce sont de bonnes missions, desquelles font aussi partie la prévention du suicide, 7,3 millions du FPRMC, la santé mentale chez les jeunes, 23,8 millions, ou l'hébergement des personnes itinérantes, 15 millions, selon le document. Je ne le nie pas. Et je comprends les organismes communautaires de se réjouir de cet argent, vu leurs finances très serrées. Mais ces missions s'écartent clairement de l'essence de la loi encadrant le cannabis. Selon la loi, le fonds est affecté au financement, premièrement, d'activités et de programmes de surveillance et de recherche concernant les effets du cannabis sur l'état de santé de la population, deuxièmement, de soins curatifs en lien avec l'usage du cannabis, troisièmement, d'activités et de programmes de prévention des méfaits du cannabis et de promotion de la santé. Au cabinet du ministre responsable, Lionel Carman, on s'en remet à ces quatre mots. Promotion de la santé, pour élargir la portée de la loi. Mais n'est-ce pas démesuré d'y injecter 60% des fonds? Ce n'est pas tout. Avant la manne de ce fonds du cannabis, le gouvernement avait déjà prévu investir dans ses missions, à même d'autres enveloppes, sommes qui n'y sont plus aujourd'hui. Bref, l'argent du pote est parfois détourné indirectement vers d'autres besoins. C'est le cas de la santé mentale chez les jeunes, mais surtout de la politique gouvernementale de prévention en santé, PGPS, adoptée en 2017, soit avant la légalisation du cannabis. Dans cette politique, le gouvernement s'était engagé en 2017 à verser 20 millions par année au ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, à même ses fonds généraux. Or, maintenant que les profits du pot abondent, bien davantage que prévu, c'est le fonds du cannabis qui finance cette politique au M3S. Selon le document de reddition de compte, précisément 19,8 millions du FPRMC ont servi à cette fin, dont 12,4 millions pour financer des organismes externes comme Équiterre et le mouvement Allaitement. Souvent, ces organismes ne savent pas, d'ailleurs, qu'ils sont financés en partie par l'argent du cannabis, selon ce qu'ils me répondent. Pas pantoute. Lucie Charlebois, l'ex-ministre libérale qui a élaboré la loi encadrant le cannabis, finalement adoptée sous la CAQ, est catégorique. La politique de prévention en santé, PGPS, n'a rien à voir avec le fonds du cannabis. Pas pantoute. J'avais travaillé à cette politique, déposée ensuite sous la CAQ. Selon ce que dit la loi du cannabis, les fonds du cannabis devaient toucher le cannabis et les dépendances, pas autre chose, m'explique-t-elle au téléphone. L'ex-ministre, qui avait alors fait beaucoup de consultations, en sait quelque chose. « Vous le savez, j'ai eu moi-même des problèmes d'alcool. Je m'en suis sortie. » Mais je peux vous dire que beaucoup de monde a besoin d'aide, plus qu'on peut penser. C'est là que doit aller l'argent, dit-elle. Un exemple. Pour suivre une thérapie avec psychologue et infirmière, les personnes dépendantes doivent débourser 5 200 $ de leur poche à la maison Jean Lapointe. Pas un sou ne vient du ministère de la Santé ni du fonds du cannabis. À ce sujet, une question se pose. Pourquoi écrire des lois, voter par les élus, si l'essence n'en est pas respectée? Patrick Taillon, professeur en droit à l'Université Laval, constate effectivement que certaines des dépenses dépassent les finalités de la loi. Et alors? En théorie, on peut attaquer ces dépenses et les financements seraient annulés. Mais on voit mal qui aurait intérêt à le faire, explique-t-il. Dit autrement, le gouvernement s'autorise à dépenser, au-delà du raisonnable et d'une interprétation pertinente de la loi constitutive, vu les bonnes causes de santé publique et l'absence de contestation, m'explique M. Taillon. Des chiffres qui se contredisent. Outre l'aspect légal, Le document à l'Assemblée nationale en dit long sur la reddition de comptes approximative du fonds. En janvier dernier, le M3S m'indiquait que le fonds avait dépensé 110,5 millions au cours de l'exercice 2022-2023. Le chiffre est conforme aux données des comptes publics, la Bible gouvernementale des finances. Or, le document de reddition de comptes remis en avril 2024 à l'Assemblée nationale chiffre les dépenses du fonds à 115,1 millions pour la même année. Comment est-ce possible? L'argent, faut-il préciser, a été dépensé il y a plus de 12 mois déjà. Autre incongruité, en janvier, le M3S m'indiquait dans un tableau détaillé que le fonds avait consacré 77,3 millions au volet qu'il appelle « promotion de la santé, prévention et réduction des méfaits ». Or, en avril, le chiffre offert aux élus est devenu 67,9 millions dans le document de reddition de comptes. Même genre de changement pour les services préventifs et curatifs en dépendance, dont les dépenses sont passées de 25,8 millions à 34 millions entre janvier et avril. Je le répète, les dépenses ont été réalisées il y a plus de 12 mois. Bref, la gestion du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, bien qu'encadrée dans une loi, est on ne peut plus bancale. Et comme une grande partie des fonds est saupoudrée dans des sous-organismes du ministère de la Santé, impossible de bien savoir si les fonds servent bien les missions ciblées. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a refusé de m'accorder une entrevue pour expliquer ces écarts du fonds. Comme expliqué plus haut, le ministre juge que la loi lui permet de dépenser pour la promotion de la santé. Investir sur une multitude de fronts est la façon la plus efficace de contribuer à une société globalement plus en santé, m'écrit son cabinet. C'était « Quand le cannabis finance les fruits et l'allaitement », un texte de Francis Vaille, paru le 26 avril 2024, dans la presse.